Qu'est-ce que la jeunesse française a à nous dire de notre époque ? À travers notre podcast « Jeunesse plurielle », découvrez des jeunes qui ont été amenés très tôt à s'interroger sur leur identité et leur place dans la société. Une conversation inédite entre des jeunes de divers territoires vivant différentes réalités.
Avec D'ailleurs et d'ici, Point News, le média d'une France plurielle, innovante, engagée.
Les cases de l'enfance, les stéréotypes, le genre, le sexisme, l'influence et l'impact des réseaux sociaux, et puis cette question en suspens. Le féminisme n'est-il pas un combat pour l'égalité ? Dans cette conversation, 8 jeunes de 15 à 18 ans de l'association Andromède dans les Yvelines confient leur regard sur l'identité de notre égalité avec cette envie de sortir des cases.
Alors je trouve qu'il y a encore trop de stéréotypes aujourd'hui, que ce soit chez les garçons comme chez les filles. Déjà, par exemple, au sein d'une classe, c'est assez fréquent que quand il y a une question à poser, par exemple, à un élève, quand un élève ne comprend pas quelque chose, il va souvent aller voir plutôt une fille qui a des bonnes notes, plutôt qu'un garçon, même s'il a des bonnes notes, parce qu'on considère que la fille sera plus studieuse, mais il y a des garçons qui sont aussi intelligents et qui peuvent répondre à des questions. Mais on ne va pas forcément les voir, parce qu'on considère que les filles sont plus intelligentes. On se dit que parce que les filles sont plus studieuses, bah, elles sont plus intelligentes. Et moi, déjà, ça m'a saoulé. Parce que je sais que je suis pas con non plus.
Depuis tout petit, même ça devient inconscient, mais la société, en fait, on nous dicte un peu comment on doit grandir, mais un peu ce qu'on doit aimer, vraiment avec le cliché le plus basique. Par exemple, les filles qui aiment les poupées, les garçons qui aiment plus les jeux de voiture et tout ça. À mon avis, des petits, c'est dans l'inconscient, mais... Même tout ce qui est avec pub, ça fait vachement de... On voit beaucoup plus de pubs dans les jeux de voiture où c'est des garçons qui jouent que des filles. Ça, on n'a jamais vu des filles dans des pubs de voiture. Et pareil pour les poupées ou les Barbie. Donc déjà, les pubs, ça oriente vachement, je pense. Et les garçons, ils vont moins s'orienter vers ces jeux-là. Peut-être en se disant que, c'est pas qu'ils n'ont pas le droit d'y jouer, mais c'est plus fait pour les filles. Donc, des tout petits, on nous oriente un peu vers des cases. C'est ça, on est vachement orienté. Des tout petits, on est vachement orienté. Et les gamins tout petits, ils vont pas se dire moi je vais aller, par exemple pour les gars, ils vont pas se dire moi je vais aller vers le rose alors qu'on nous propose du bleu. Après, avec l'évolution de la pensée, les gens se définissent plus. Donc il y a des gens qui arrivent à se définir et qui arrivent à sortir de ces cases en disant « non, moi je suis comme ça ». Et ça, c'est assez bien. Je trouve qu'il y a de plus en plus de personnes qui prennent confiance en soi et qui arrivent à s'affirmer. Mais je pense qu'il y en a certains qui sont encore bloqués par ça.
Je pense aussi les rôles qui sont depuis tout petit. C'est parce qu'en fait, même si parfois on essaye d'en sortir, même si on en est sorti, on se fait quand même critiquer. Par exemple, aujourd'hui, il y a un terme qui est souvent utilisé sur Internet, qui est le terme de « pick me », où en gros, si une fille va faire quelque chose considéré comme de garçon, elle va être appelée une « pick me » parce qu'elle est obligée de faire ça pour plaire aux garçons et pas parce qu'elle est vraiment intéressée par le sujet. Par exemple, une fille qui, je sais pas, je vais vraiment utiliser les plus gros clichés, mais qui va s'intéresser au foot ou à la Formule 1, on va forcément lui demander de se justifier, de prouver, de citer des sportifs qui existent vraiment, parce que sinon elle n'est pas légitime d'aimer ce sport et elle fait ça juste pour faire son intéressante. Et du coup, je pense que c'est à cause de ça que certaines filles n'osent pas faire certaines choses, que ce soit être extrêmement féminine, entre guillemets, soit être masculine.
Moi, je suis d'accord avec le fait que, du coup, dès l'enfance, on nous met dans des cases. Et je pense, en fait, dès l'enfance, on nous dit les filles, souvent, elles travaillent plus que les garçons. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, on dit aux filles de plus travailler que les garçons, comme si elles n'étaient pas capables d'arriver au même résultat que les garçons, qu'elles avaient besoin de plus travailler pour y arriver. Et, Et aussi le fait que les filles, elles s'orientent plus vers des matières littéraires et pas trop scientifiques. C'est comme si on leur disait qu'elles n'étaient pas capables d'aller dans des filières scientifiques, qu'il fallait qu'elles restent dans des choses, je vais dire plus simples, mais en gros, c'est ce qu'on dit. On dit filles vont aller dans des matières littéraires plus simples pour elles, en fait, que les matières scientifiques. Et même moi, dans ma classe, on est 6 filles contre 24 garçons parce que c'est une classe scientifique. Donc, même les professeurs, quand nous, les filles, en fait, on participe ou qu'on répond, c'est presque comme s'ils doutaient de nos capacités à pouvoir faire des métiers scientifiques aussi. Ils nous demandent pourquoi on a choisi cette filière, est-ce qu'on est vraiment sûr d'y arriver, alors qu'on ne demande pas ça aux garçons de ma classe.
Moi, je suis assez d'accord avec le fait que c'est souvent... Enfin, ça vient souvent de l'éducation. Genre, on a souvent des éducations qui sont très, très genrées. Ce qui fait que quand on va grandir, en général, on est le produit de cette éducation. Donc, on finit par aller vers ce sur quoi on nous a poussé. Et pour ce que disait Jonah sur l'intelligence, j'ai l'impression que c'est pas en soi l'intelligence que la maturité. Genre, on va souvent supposer que les filles sont plus matures que les garçons parce qu'on va nous pousser à être plus matures que les garçons. Parce que, genre, une fille au primaire, c'est censé savoir s'occuper de ses petits frères et ses petites sœurs. Alors qu'un garçon au primaire, c'est censé être un petit garçon. Mais il y a ces... Et c'est beaucoup dans la maturité plus que dans l'intelligence. Moi, on attend souvent de moi que je sois très mature. Par contre, on suppose souvent que je suis stupide. Genre, si je pose une question... Moi, je suis dans une classe littéraire, donc je suis vraiment le cliché de la fille, parce qu'il y a genre 28 filles et 4 garçons. Mais si je pose une question sur la pensée de Sartre et que je la pose à un de mes potes garçons qui est dans ma classe, il va me l'expliquer 46 minutes, même si c'est moi qui lui ai expliqué le truc à la base. Par contre, si on me pose une question de maturité et que je dis je sais pas, on va me regarder en mode pourquoi elle est bête comme ça. Donc en fait, genre... Enfin, les gens supposent de manière générale que je suis mature, mais que je suis complètement débile. Enfin, le principe même du mansplaining, je trouve que c'est beaucoup basé sur ça. En général, on va rarement remettre en cause le fait que, genre, si je dis que je sais m'occuper d'un bébé... C'est pas vrai, mais on va supposer que je dis la vérité. Par contre, si je dis que je sais faire une dissertation sans préparation et que je saurais vous expliquer la pensée de Freud sans réviser, on va se dire que je suis en train de mentir.
Juste pour rebondir sur ce qu'avait dit Sarah, comme quoi on mettait dans des cases, par exemple, un garçon qui s'habille en rose ou en violet, à partir d'un certain âge, on peut considérer déjà qu'il est gay. Moi, je sais qu'au collège, on m'a souvent demandé si j'étais gay. Je pense que j'étais toujours content, j'étais tactile, c'est tout. Mais rien de bizarre ou quoi. Et par exemple, moi j'aime bien le rose et le violet. Et vous avez sûrement remarqué que je mettais souvent des pulls roses l'année dernière. Et avant que je commence à en porter, je me suis dit, mais est-ce qu'on ne va pas encore me demander si je suis gay ou quoi? Et alors que pas du tout, on ne m'a pas demandé, parce qu'il y a un certain niveau de maturité qui s'installe au lycée. Puis parce que aussi les gens commencent un peu à s'en moquer de ce que les gens portent, etc. Et c'est surtout enfin, je veux dire que même s'il y en a qui ont des jugements, ils vont pas aller les voir en face parce que ils disent vas-y, je reste avec mes groupes de potes et c'est tout quoi. Mais on m'a pas demandé si j'étais gay, on m'a pas fait de réflexion parce qu'avec le temps, les gens commencent à comprendre aussi que faut laisser les gens faire un peu ce qu'ils veulent quoi.
Pour continuer sur l'homosexualité, je pense qu'il y a une grande pression qui est mise sur les garçons parce que par exemple, dans mon lycée, il y a une présentation des spécialités. Et vient le moment où un groupe de lycéens présente l'aspect HLP, donc qui est basé sur le français, en fait. Et sur la présentation, il y avait peut-être deux filles et deux garçons. Et du coup, je dis à mes amis, ça a l'air d'être intéressant. En plus, il n'y a pas que des filles. Et mes amis me disent, oui, mais ils sont gays. Et genre, c'est pas parce qu'ils font du français qu'ils sont forcément gays. Enfin... Ok, ils ont mis un col roulé, mais je vois pas le rapport. Du coup, ça m'a un peu étonnée. Et moi-même, quand j'étais petite, j'ai deux grands frères. Et à chaque fois, on me disait que j'étais un garçon manqué. On me disait que j'étais gay. Même ma mère me le répétait sûrement genre tous les jours. Elle me disait « Est-ce que t'es gay ? J'ai besoin de savoir !» Et j'étais un peu étonnée. Je veux dire, c'est pas une nécessité. C'est pas parce qu'on fait quelque chose d'un tout petit peu différent qu'on est forcément gay. Et c'est même si on l'était, enfin, je veux dire, c'est pas une mauvaise chose.
Oui, du coup, pour rebondir sur ce que vous avez tous les deux dit, il y a aussi un terme qui est beaucoup utilisé sur Internet, qui est « toxic masculinity ». du coup la toxicité masculine, où en fait c'est quand des garçons imposent sur d'autres garçons des choses dites masculines parce qu'ils sont, ils se comportent d'une manière féminine alors qu'ils se comportent juste comme des humains. Par exemple, ils ne doivent pas montrer leurs émotions ou être, je ne sais pas, tactile comme Jonah il a dit, parce que c'est dit comme gay ou féminin.
Un sujet un peu plus enflammé, si j'ose dire, qui est le féminisme extrémiste. Alors, j'ai pas vécu de trucs spéciaux, mais je sais qu'il y a des situations qui arrivent de manière assez récurrente, c'est-à-dire où des femmes vraiment qui ressentent de la haine face aux hommes considèrent qu'ils sont responsables de tout ce qui se passe en fait. Que dès qu'il se passe quelque chose, c'est la faute d'un homme. Et qui prennent des libertés, je veux dire, qui considèrent qu'elles ont le droit de s'énerver après un homme, qu'elles ont le droit d'avoir d'être violentes physiquement ou verbalement, et ne pas reprendre le revers de la médaille, et qu'elles s'étonnent après, ça leur fait tout drôle de se prendre une baffe si elles en ont mis une avant. Et je trouve qu'en soi, je comprends le combat féministe, mais j'arrive pas à m'empêcher de me dire qu'il y a des gens aussi dans ce groupe-là qui juste. Considère que l'homme est l'ennemi numéro un. Mais j'ai deux sœurs qui ont pendant quelques années été très 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 engagées dans tout ce qui est féminisme, mouvement LGBT, etc. Elles ont longtemps essayé de me mettre là-dedans. Aujourd'hui, j'ai réussi à m'en écarter. Mais il y avait un moment où il y avait une période où j'étais assez sensible entre guillemets, où je m'offusquais pour n'importe quelle parole. Que ce soit de l'humour noir ou juste une parole un peu déplacée, mal dite. Et en fait, j'étais totalement mis dedans. Et en fait, je me rendais pas compte qu'il y avait aussi des gens qui considéraient que si jamais on écoute toutes les personnes qui sont dans chacun de ces mouvements-là, si on les écoute, parce que souvent, en plus, les plus extrémistes sont partis de chacun de ces mouvements, si on les écoute, l'ennemi numéro un de la société, c'est l'homme blanc, cisgenre et hétérosexuel. Et moi, ce qui me fait mal, c'est de me dire que c'est moi, en fait. Et que sans avoir rien fait à personne, je suis l'ennemi numéro un. Et qu'il suffit que je rencontre la mauvaise personne dans la rue et pour me faire cracher dessus et pour qu'on me dise que je suis une personne horrible alors que j'ai rien fait de mal, quoi.
Je pense que ce mouvement de féminisme extrémiste, c'est un peu une peur générale. Bien qu'il y en a sûrement qui existent. Et, enfin, c'est vrai, il y a des femmes comme ça. Mais c'est surtout aujourd'hui avec Internet... les gens qui crient le plus fort sont souvent ceux qu'on entend le plus et du coup on pense que c'est une majorité. Mais je pense qu'en réalité il y en a vraiment très peu. Et sur internet les propos des femmes sont souvent déformés. Et quand il y a des femmes extrémistes, et bah, les gens vont prendre ça pour une réalité, une généralité pardon. Je pense que c'est surtout à cause d'internet qui multiplie les propos et qui les agrandissent fois mille. Et ce qui crée encore plus de haine envers les femmes. Et ça les décrédibilise. Par exemple, sur Internet, y a sûrement, que ce soit sur Twitter ou sur YouTube, t'as sûrement plein d'hommes qui font des vidéos réactions à des féministes. Et sauf que du coup, ça va engendrer encore plus de haine. Et du coup, ça va faire ci, ça va faire ça. Et je pense que tout ça, c'est juste une sorte de panique générale pour un peu décrédibiliser tout le monde. Mais je pense que c'est pas vraiment réel. Et même s'il y en a qui existent, des féministes extrémistes, entre guillemets, bah, je pense que c'est elles-mêmes... une sorte de peur enfouie et qu'elles ne savent pas vraiment comment réagir, comment penser autrement, mais que c'est juste un problème qu'on a tous, mais qu'on ne sait pas régler de la même manière.
Bah moi, je vais revenir sur ce que tu as dit. Je suis totalement d'accord. Dès qu'il va y avoir un mouvement, on va tout de suite parler des extrémistes, de ceux qui vont aller à l'extrême, alors que, bah, comme tu dis, parfois, c'est des minorités. Et je trouve qu'après, on va juste parler de cette petite portion de personnes et ça va décrédibiliser tout le mouvement. Et après, on va parler que de ça, les extrémistes, mais faut pas oublier qu'il y a quand même un mouvement derrière. Il ne faut pas non plus effacer toute la cause.
Je suis assez d'accord avec ça. Mais je pense aussi que parfois, on n'est pas forcément juste une féministe extrémiste. Je pense que ce n'est pas genre un statut que soit t'es féministe extrémiste, soit t'es juste pas féministe. Je pense qu'il y a des moments où on est fatigué, et parce qu'on est fatigué, on a besoin de trouver un ennemi. Parce que t'as besoin de savoir sur qui tu as besoin de taper, genre qui est le responsable. Donc parfois, c'est vrai que il est possible que de temps à autre, les féministes s'acharnent sur les hommes blancs, cis, hétéros. Mais je pense qu'il y a aussi un truc de... Les micro-agressions, c'est vraiment relou. Genre, le principe de « ouais, mais c'est une blague », c'est chiant de fou. Genre, parce qu'en fait, parce que c'est une blague et que j'accepte le fait que c'est juste une blague, quand derrière, tu vas faire un truc juste un tout petit peu plus grave que cette vanne, bah, je peux pas réagir parce que j'ai dit que c'était juste une petite vanne. Et donc, en fait, c'est des moments où je vais être je suis de bonne humeur, c'est bon, j'ai pas envie de m'embrouiller avec toi, donc je vais laisser passer le truc. Mais il y a des moments où je suis fatiguée. Et donc le truc de « Ah, ton cubain, il est marrant », ça me fait pas rire beaucoup, en fait. Et c'est très fatigant, parce que sous couvert de « on doit vivre avec tout le monde et on doit être gentil avec tout le monde », on a tendance à juste être en mode « bon, bah, je vais laisser couler parce que j'ai pas envie qu'on m'embête ». Mais en fait, à la longue, c'est vraiment relou. Parce qu'en fait, c'est le truc de « t'es pas en train de rire avec moi d'un sujet qui me concerne, t'es en train de te moquer de moi ». D'un sujet dont tu souffriras jamais. Donc en fait, c'est juste un truc de contexte. Genre, il y a des moments où c'est pas le lieu.
Alors, je comprends ce que tu me dis, je l'entends. Et c'est vrai qu'effectivement, il y a des hommes qui se comportent pas correctement avec des femmes. Ça, c'est vrai. Il y en a. Mais je me demande si parfois on fait pas un peu des abus pour amplifier le mouvement féministe, qui certes défend des valeurs totalement justifiées, mais est-ce que parfois il n'y aurait pas trop de haine véhiculée, pas de haine, mais je veux dire pas trop de différents et trop de d'opposition véhiculée en fait.
Bah déjà, je crois qu'il ne faut pas confondre le mouvement féministe avec le mouvement extrême féministe, parce que ce n'est pas du tout la même chose. Il y en a un, c'est pour l'égalité, et l'autre, c'est pour que les femmes soient supérieures aux hommes. Mais je crois que aussi ça a commencé l'extrême féminisme, parce qu'au début, c'est quand même une patriarchie où les hommes sont dominants. Et du coup, je crois que c'est aussi pour ça que c'est... On rejette souvent la faute sur les hommes, c'est parce que c'est eux qui sont au pouvoir. Du coup, c'est eux qui ont plus de pouvoir pour faire des choses auxquelles on n'est pas d'accord. Et aussi, je suis d'accord que ce n'est pas tous les hommes qui vont agresser des gens, mais c'est quand même plus de 90% la faute des hommes quand il y a une agression sexuelle. Mais il faut aussi parler des 10% des hommes, parce qu'ils n'ont pas une grande voix. Il faudrait plus leur donner une voix. Mais quand une femme parle d'une agression sexuelle qui lui est arrivée, ou quand on parle de l'agression sexuelle des femmes en général, il ne faut pas dire « oui, mais les hommes aussi se font agresser ». Parce que ça, c'est un autre sujet complètement. Enfin, pas complètement, mais c'est un sujet assez à part.
Bah, globalement, je suis assez d'accord avec Anna, dans le sens où... C'est vrai qu'on aura tendance à moins parler des 10% qui arrivent aux hommes, parce que souvent, quand on en parle, c'est parce qu'il y a une femme qui est en train de parler de ça et qu'on va lui dire « ouais, mais regarde les 10% ». Et c'est juste que c'est deux sujets qui n'ont pas de lien en soi. Et donc, en fait, si c'est utilisé pour dire à une femme « tais-toi » et « c'est souris », je vais avoir tendance à juste dire bah, « on va pas beaucoup parler ensemble ». Mais dans la définition que j'ai du féminisme et qui a l'air plus ou moins la même que la tienne, c'est dans le sens où c'est un combat pour l'égalité et qui donc inclut les hommes dans cette façon-là. Dans le sens où,
pour moi, le fait que le sexisme attaque aussi les hommes, c'est un fait et que c'est ce pourquoi les féministes en soi se battent également. Genre, par exemple, je sais que j'ai déjà eu une discussion assez houleuse avec quelqu'un qui était un père de famille qui a dit à son fils de 5 ans de protéger sa fille de 6 ans s'il y avait un truc qui se passait ou s'il y avait un homme chelou dans la rue. Et je trouve que c'est assez étrange de demander à un enfant de 5 ans de genre « Ouais, mais t'es un homme, sois fort » parce qu'il a 5 ans. À 5 ans, je suis désolée, quelque chose arrive, tu cours. La personne est plus grande que toi en plus, tu veux protéger qui exactement ? Enfin, c'est juste ce truc de... Les attendus qui sont mis sur les hommes sont quasiment, voire si c'est pas tout autant absurde que parfois ceux qui sont mis sur les femmes. Et donc c'est ce truc de... Bah en fait, pour moi, le féminisme, c'est pas de dire « Ok, il faut écouter la voix des femmes et pas celle des hommes », ni dire « Il faut écouter la voix des hommes, pas celle des femmes ». C'est simplement comprendre que le sexisme, étant donné qu'il impacte tout le monde, on a tout intérêt à bosser ensemble pour le truc, mais tout en catégorisant quel est le sujet dont on parle.
Est-ce que par rapport à ce que tu disais, je pense que la raison pour laquelle il n'y a pas assez de voix d'hommes dans le féminisme, c'est parce qu'il y a beaucoup moins de soutien par rapport aux agressions que vivent les hommes, parce qu'ils sont humiliés, et le fait d'être agressé pour un homme, c'est un peu s'avouer comme étant faible dans l'esprit commun. Alors que quand une femme est agressée, il y aura beaucoup, beaucoup de monde autour d'elle, que ce soit des femmes ou des hommes.
C'est là qu'on voit que l'égalité, sur ce point-là, elle n'est pas du tout présente. C'est que tout le monde se disait égalitaire entre filles et garçons, bah, il y aurait normalement autant de soutien du côté garçon que du côté fille.
Pour les médias, pour le coup, je suis assez d'accord. Dans le sens où le truc de la femme qui se fait taper par son mari dans un show télé ou dans un truc comme ça, c'est tout de suite vu comme « Oh, elle se fait... c'est une agression. C'est de la violence conjugale. C'est pas bien. » Et c'est logique. Par contre, s'il y a une dispute, il y a quelque chose, et que dans le film, la femme gifle son mari, on va juste se dire qu'elle s'est agacée et que c'est pas si grave que soit. Et en soi, il y a étonnamment beaucoup de films où la blague... c'est que le mec se fait plus ou moins abuser par sa copine sexuellement. Dans le sens où le truc de « Ok, elle a dit non, elle avait pas envie de le faire et le mec a abusé », ça aura plus tendance à être vu en mode « Ouais, non, ok, c'est chelou, c'est pas marrant ». Par contre, si le garçon a pas très très envie, mais que la fille insiste beaucoup et qu'au final, ils finissent par le faire, « Oh bah, il a de la chance, oh, c'est vraiment un champion » ou « Oh, c'est une vanne ». Et je trouve que c'est quand même un vrai problème. Et après... moi, j'ai un peu de mal avec le soutien moral parce que je trouve que c'est très bien, c'est très important, mais ça change rien. Le soutien moral n'aide pas à avancer un mouvement, le soutien moral n'aide pas à déposer une plainte, le soutien moral nous aide pas à gagner un procès. Je trouve que le soutien moral, c'est souvent ce qu'on va dire quand on n'a pas envie de faire grand-chose. Et genre, je trouve que bah, quand va y avoir un problème de sexisme ou de racisme ou de quelque chose dans ma classe et que je vais vouloir en parler à mon prof principal ou que je vais vouloir aller en parler à quelqu'un, souvent la plupart des 25 personnes de ma classe, ce que je vais entendre c'est « Ah, je suis avec toi !» Mais derrière, quand je vais aller en parler, il n'y aura plus personne. Donc en fait, le soutien moral, il me fait plaisir, hein, mais évitez, parce que vraiment c'est agaçant.
Aussi, je parle du soutien moral pour un genre d'agression assez traumatisante pour une personne. Je pense que selon les situations, une personne peut vraiment être choquée par ce qui lui est arrivé et a plus ou moins besoin de soutien moral. Et par rapport à ce que tu disais, comme quoi si une femme frappe son mari, on peut se dire qu'elle s'est agacée. Je pense que c'est surtout une question de à l'instant où un homme lève la main sur sa femme, on va direct considérer que c'est un mec dangereux. Mais déjà, je pense qu'on... on passe au-dessus trop vite, par exemple, d'une situation où il se prend 15 baffes et par contre, si lui, il en rend une seule, c'est lui le danger. Je pense que ça, déjà, ça arrive, je pense, trop souvent. Et je pense que la seule baffe que le mari rend, on considère que c'est lui qui l'a causé en premier. Et aussi, je pense que si jamais une femme frappe son mari, on va commencer par chercher des raisons pour lesquelles elle l'aurait fait. Par exemple, ça se trouve, il n'a pas été respectueux, si ça se trouve, il l'a trompé, ou que sais-je. Alors que si un homme frappe sa femme, on ne va pas aller chercher plus loin, c'est un gars dangereux.
Alors, je suis à la fois d'accord et à la fois pas d'accord, parce qu'il y a beaucoup de célébrités hommes qui ont frappé leur femme
Et aujourd'hui, bah certes, les gens l'ont pointé du doigt, mais à part ça, bah, ils sont encore là, quoi. Par exemple, l'ex-mari de Rihanna, il a littéralement frappé Rihanna. Il y a eu des images de Rihanna, genre avec la tête en sang. Et il y a des mèmes qui ont été faits sur la tête de Rihanna en sang. Il y a des gens qui faisaient des blagues sur ça, qui écoutent encore du Chris Brown et qui sont encore... pas qu'ils le supportent, mais qui ne condamnent pas ça non plus. Et il y a aussi, en France, le chanteur de Noir Désir, qui a tué sa femme, littéralement. Et bah, mes frères, par exemple, ils sont là de... Bon, ok, il a tué sa femme, mais sa musique, elle est bien, alors on continue de l'écouter. Et, bah, certes, il faut séparer l'homme de l'artiste, mais parfois... Enfin, parfois, c'est pas très condamné, les violences. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire que les réseaux sociaux aident parce que ça permet de donner la parole à beaucoup de gens et à un grand nombre de personnes, donc bah, surtout des mineurs qui n'ont souvent pas beaucoup la parole. Mais personnellement, je trouve que c'est plutôt négatif parce qu'en fait, les réseaux sociaux, tous les réseaux sociaux sont basés sur un algorithme et du coup, plus on va consommer d'un certain sujet, plus on va nous montrer ça. Et plus ça va pas du tout diversifier notre opinion, mais je pense que ça va plus le resserrer, même si on s'en rend pas forcément compte.
Bah moi, d'un côté, je suis totalement d'accord avec toi. Mais je trouve que de l'autre, les réseaux sociaux, ça aide beaucoup parce que je trouve que ça permet aux gens de se poser beaucoup plus de questions plutôt que de survoler juste les sujets comme bah, le féminisme, le mouvement LGBT, tout ça. Je trouve que même si parfois on entend des choses fausses ou on entend un peu n'importe quoi sur les réseaux, au moins ça permet aux gens d'arrêter de survoler les questions, de survoler les sujets, pardon, et de vraiment se poser des questions, de s'intéresser à certains sujets. Et de, ouais, parce que sur les réseaux, il y a beaucoup d'avis différents, t'entends les avis un peu de tout le monde, et du coup, ça permet vraiment de se poser des questions, quoi, de s'intéresser à ce qui se passe en ce moment, et voilà. Il y a tout sur les réseaux, il y a des choses qui sont horribles, comme ouais, du harcèlement ou plein de choses. Donc c'est pour ça que je dis que les réseaux sociaux, c'est pas que du bien, que du positif, il y a aussi... beaucoup, énormément de négatifs. C'est pour ça que moi, je trouve qu'il faut faire la part des choses. Mais c'est comme partout, c'est comme dans le réel. Il y a des choses qui sont positives, il y a des choses qui sont négatives. Bah, je trouve qu'on est de plus en plus informés, que ce soit à l'école, on nous beaucoup plus de prévention, voilà. Et ça aussi, c'est pareil, c'est important. Moi, à l'école, j'ai eu plein de préventions sur les réseaux sociaux, le harcèlement sur les réseaux sociaux, sur plein de sujets. Donc après, il y en a qui sont peut-être pas assez matures pour faire la part des choses. Mais moi, je trouve que ouais, la prévention, c'est très, très important pour se protéger, tout simplement.
Oui, c'est ça. En fait, les réseaux sociaux, c'est vraiment à double tranchant. Donc d'un côté, ça peut être très bien. Pour s'informer ou même pour se créer sa propre opinion. Mais de l'autre, si on va directement suivre un mouvement et sans se poser de questions, ça peut très vite, on peut très vite bah, se faire avoir. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de prévention, comme l'a dit Yael, sur les réseaux sociaux. Et c'est bien, parce que ça permet justement de faire la part des choses et de développer sa propre opinion.
Emine a raison, l'algorithme, il fait que plus on garde quelque chose, plus on aura... du contenu similaire, et ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent vite être pris dans une spirale où plus ils regardent quelque chose d'un sujet spécifique, plus ils en auront, et ça risque de devenir de plus en plus extrémiste. Alors il y en a qui arrivent à s'en sortir, mais il y en a aussi qui ne se rendent pas compte et qui vont totalement qui suivent totalement le sens de la spirale et qu'ils commencent à répandre une opinion qui n'est pas la leur. Et parfois, c'est assez difficile de leur faire comprendre que bah, ce n'est pas forcément vrai et que ce n'est pas parce qu'ils l'ont vu sur les réseaux que c'est vrai. Donc, il faut s'en méfier. Et par rapport à la violence gratuite qu'évoquait Yael, c'est vrai qu'il y a parfois des commentaires sous des vidéos ou des photos qui n'ont parfois aucun enjeu ni aucune idée politique, qui sont juste haineux en fait. Et tu peux avoir parfois des bagarres dans les commentaires. Alors il y en a un peu sur Insta, j'imagine que Twitter c'est 10 fois pire parce que Twitter est connu pour être très très violent. Mais voilà, ce qu'il faut, enfin ce que je veux dire c'est qu'il faut, on peut s'intéresser à des contenus, mais surtout sur les réseaux sociaux, il faut vraiment être vigilant à pas être enfermé dans une spirale et à contrôler ce qu'on regarde, parce qu'on peut très très vite être perdu dans un sujet qu'on contrôle pas, quoi.
Moi, je voulais aussi revenir sur le fait que sur les réseaux sociaux, ce seront un peu les mêmes sujets qu'on a déjà regardés qu'il faut revenir avec l'algorithme. Mais du coup, en fait, je pense que c'est plutôt dangereux parce que, en fait, comme ce sont toujours les mêmes sujets qui vont être mis en avant ou les mêmes personnes, après, les gens, ils vont vouloir agir comme ces personnes pour, je sais pas, peut-être devenir aussi influenceuse qu'elle, aussi célèbre qu'elle, aussi reconnue. Du coup, leurs opinions peuvent changer pour ressembler à ces influenceurs, peut-être qui auront certaines opinions que les utilisateurs n'avaient pas avant, qu'ils vont avoir pour leur ressembler. Du coup, en fait, je pense que les réseaux sociaux, ça nous... oui, il faut faire la part des choses, mais en fait, je pense que c'est très difficile avec les réseaux sociaux de faire la part des choses entre ce qu'il faut prendre et ce qu'il faut plutôt remettre en question. On va plutôt prendre toujours les mêmes choses, en fait. Ce seront toujours les mêmes choses qui vont revenir, donc en fait, on ne pourra pas vraiment dire ce qui est vrai et faux dedans, puisque... En fait, on aura toujours les mêmes opinions qui reviendront. Et donc, on voudra ressembler. Et donc aussi, je voulais juste rebondir sur le fait que, du coup, par exemple, les influenceurs, comme on va vouloir les imiter, ben, en fait, ça va entretenir les stéréotypes de genre, comme quoi, par exemple, les filles, elles doivent se maquiller et, je sais pas, les garçons, ils doivent aimer le foot. Je dis n'importe quoi. Mais du coup, si les influenceurs... qui disent ça, en fait, les influenceurs qui disent ça vont influencer les utilisateurs qui, du coup, eux-mêmes vont influencer peut-être leurs amis ou les gens qui les suivent. Et donc, en fait, au final, ça, je pense que ça entretient beaucoup les stéréotypes sur les hommes et les femmes.
Bah moi, je vais totalement confirmer ce que vous dites. En fait, les réseaux sociaux, leur algorithme, ça montre absolument ce qu'on a envie de voir, en fait. C'est fait pour ça. On va, comme vous avez dit, on va liker une vidéo sur un sujet. Après, on n'aura que des vidéos de ça, mais que des vidéos qui nous confortent, en fait, dans notre opinion. Et après, on n'aura plus d'opinion extérieure, on n'aura plus d'avis extérieur, on verra que par notre opinion. Et c'est pour ça que je trouve que c'est super important de... Quand on va avoir un certain sujet sur les réseaux sociaux, je trouve que c'est toujours important d'en parler avec des gens dans la vraie vie, en parler avec des gens extérieurs. Parce que je trouve que les débats, c'est super important. Moi, je sais que mon père m'a toujours dit, c'est bien de se... Des fois, on fait des débats avec nous-mêmes, on se dit non, mais ça doit être comme ça, ça doit être comme ça. Mais je trouve que tant qu'on ne va pas confronter quelqu'un qui a une opinion opposée, eh ben, on ne pourra pas se remettre en question sur notre avis à nous. Parce qu'on va se dire, bah non, c'est comme ça, il n'y a personne qui me dit le contraire, donc c'est comme ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, ouais, c'est super important de pas se focaliser sur les réseaux sociaux et de toujours entretenir ce genre de discussion avec des gens dans la réalité.
Sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup ce côté comique et second degré. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens ne savent plus trop faire la part des choses. Par exemple, avec les mèmes et tout ça. Il y a un mème qui s'est répandu. J'en peux plus de ce mème, je vais devenir folle si je le vois encore une fois. C'est juste deux hommes qui se regardent et qui font « Ha, woman !» Et qu'après, ils boivent une tasse de thé ou juste ils se moquent des femmes. Et peut-être que la première fois, c'était marrant, mais aujourd'hui, c'est utilisé pour tout et n'importe quoi. Genre, parfois, t'as juste une femme qui va dire quelque chose et t'auras ce truc de deux hommes qui se moquent de la femme. Et bah, je pense qu'aujourd'hui, avec les mèmes et tout ça, les gens sont plus dans le sens c'est des blagues. Et les gens qui n'y rigolent pas, ils abusent.
De manière générale, moi, si on me fout la paix, je fous la paix aux gens. Par contre, si jamais on commence à m'embêter, notamment sur un sujet justement assez controversé comme ça, j'ai aucun scrupule à exposer mon avis. Et je sais que même si parfois il y en a qui ne sont pas d'accord, Mais quand c'est un débat comme ça qui est posé, où on peut vraiment exposer nos idées et qu'on laisse les gens parler et que sans animosité, bah, ce genre de discussions-là, elles sont beaucoup plus pertinentes puisque c'est là vraiment qu'on écoute les gens et qu'on écoute les avis, les arguments. Alors que dans une... Je vois pas l'intérêt en fait de discuter de ce genre de sujet comme ça, surtout sur le coup d'une dispute, quoi. Sur le coup d'une dispute ou d'une remarque, je vois pas l'intérêt de discuter sur ce genre de sujet parce que de toute façon, on pourra pas faire entendre raison à l'autre puisque les deux personnes, comme elles sont en colère, elles vont juste être dans leurs esprits et dans leurs idées. Donc ça sert à rien de faire ça. Là, ce genre de discussion-là, je trouve qu'elles sont bien plus enrichissantes parce qu'on peut entendre les avis de chaque personne clairement, distinctement, avec des arguments qui sont réfléchis avant de parler.
Je pense que oui, ça a impacté nos vies parce que à un moment donné, quand tu fais certains choix, en étant une fille ou un garçon, peu importe, mais il y a ces stéréotypes-là autour de nous qui font que bah, des fois, quand on a envie de faire quelque chose, on a envie de faire un choix, de prendre une décision, et ben, on a des gens autour de nous qui vont nous dire « Non, mais si tu fais ça, tu te comportes comme ça. Si tu fais ça, bah, en fait, tu vas devenir comme ça. » Ou par exemple, je prends un exemple tout bête, quand j'étais plus jeune, bah, j'aime bien jouer au foot avec les garçons, je préférais rester avec les garçons parce que bah, j'étais comme ça. Sauf que bah, non, j'étais une fille qui voulait juste pouvoir être tout le temps collée avec les garçons, et la seule chose que, enfin, c'est comme ça que les gens me voyaient en fait, et c'est pas vraiment la fille que j'étais, c'est juste que bah, j'aimais bien le foot et j'aimais bien jouer au foot, et donc bah, c'est un exemple tout bête, mais du coup au bout d'un moment j'ai arrêté de jouer au foot et aujourd'hui bah, j'y joue plus du tout parce que bah, au bout d'un moment le jugement ou les clichés, les stéréotypes, les choses te poussent à faire d'autres choses, et dans la vie de tous les jours je pense que oui ça impacte nos vies parce qu'on les rencontre tous les jours, ces clichés. Il n'y a pas que à l'école, il y a aussi bah, dehors. Enfin, partout, je pense.
Moi, je pense, oui, ça impacte notre vie. Après, moi, personnellement, j'étais pas vraiment mêlée au groupe, mêlée au système. J'étais à part. Genre, même en maternelle, j'étais toute seule dans mon coin. Donc, en fait, j'ai un peu évolué de mon côté, un peu loin de tout le monde. Donc, j'ai juste grandi comme je voulais. Je me posais pas de questions. Et après, quand je suis arrivée... au collège et au lycée, que j'ai dit que je voulais faire des matières scientifiques, c'est là qu'en fait je me suis rendu compte que les choix que je faisais, apparemment, c'était pas des choix de filles. Moi, je me posais pas la question. Pour moi, c'était juste ce que j'aimais. Et les gens, ils ont commencé à me juger parce que je faisais pas ce qu'ils attendaient de moi. Donc, j'ai continué à faire ce que je voulais faire, mais en fait, ça m'a impacté. Parce que du coup, j'avais moins d'amis qu'avant. Et en fait, ouais, c'est à partir du collège moi, où ça a commencé à vraiment m'impacter.
Alors pour le coup, moi, c'est un peu l'inverse. Dans le sens où je suis quelqu'un qui a basé et qui a construit l'entièreté de mon identité sur le fait de faire plaisir aux gens. Avant de me rendre compte que j'avais le droit d'avoir une identité et maintenant, je galère. Ça fait qu'en fait, tous ces trucs-là m'ont énormément impacté. Genre quand j'étais en primaire, on m'a dit que... ne pas porter des jupes, c'était pas bien s'habiller. Et quand on me demandait de bien m'habiller, ça voulait dire mets une jupe ou mets une robe. Et du coup, ça fait que pendant plusieurs années, je n'ai pas tenté de m'habiller correctement parce que je pensais que si je m'habillais correctement, ça voulait dire que je devais mettre une jupe et que ça m'intéressait pas. Donc c'est des trucs comme ça qui m'ont impacté beaucoup et qui m'ont fatiguée. Dans le sens où on m'a dit « Ouais, il faut que tu sois gentille avec les gens qui sont pas de ton avis. » Et de manière générale, pars toujours du principe que t'as tort. Et du coup, j'ai plus ou moins grandi en pensant que j'étais stupide, ce que c'est vrai probablement. Mais le résultat de ça, c'est que j'ai passé beaucoup d'années à genre, écouter des gens me dire des choses que je savais ne pas être vraies, me dire « Ah, j'ai tort », changer mon opinion là-dessus, et pour après réaliser des années plus tard que j'avais raison et que Madame Maurice en CE2, elle avait tort, tu vois. Non, c'est globalement, ça m'a fatiguée. Et aujourd'hui, le résultat de ça... c'est que j'ai 18 ans, je suis très jeune et je suis quelqu'un d'aigri. Et c'est quand même... non, mais c'est dans le sens où le devoir reconstruire toute une identité en essayant de prendre en compte que son opinion, quand on a passé notre vie à ne prendre en compte que l'opinion des autres,
ça fatigue un être humain. Et je suis fatiguée.
Non, je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit parce que je te rejoins sur le fait que moi j'ai passé toute ma vie, je suis plus jeune que toi, j'en ai que 15, mais j'ai passé toute ma vie à me baser sur ce que les gens me disaient, à faire que ce que les gens me disaient. Et aujourd'hui, bah, ne serait-ce qu'en classe, quand on me demande de faire un devoir sur moi-même ou sur ce que je pense, bah, finalement il y a un moment donné où je suis pas fichue de répondre à cette question-là parce que j'ai suivi ce que les gens m'ont dit, que j'ai conscience du fait que c'est pas réellement ma pensée. Mais qu'on me l'a tellement rentré dans la tête par... Alors, j'ai pas trop les réseaux sociaux, mais même en n'étant pas, moi, sur mon propre téléphone, à voir les réseaux sociaux, tous les gens autour de moi, ils ont tous les réseaux sociaux, donc ça finit par, moi aussi, impacter ma vie, ces commentaires, ces choses qu'on peut voir. Et du coup, bah, au bout d'un moment, j'en perds un peu mon identité personnelle et mes propres pensées, parce que, justement, autour de moi, il y a tous ces dires-là.
Bah, moi, j'espère juste que les gens... Enfin, qu'on va casser tout ce truc de case, de femme contre homme, de tout ça, que de comprendre qu'on est tous des êtres humains à part entière. C'est pas parce que je suis une femme que je suis forcément comme une autre femme, et que si une femme fait ça, bah, ça m'englobe moi aussi. On est tous des êtres humains à part entière, on est tous totalement différents. Donc j'espère juste que les gens vont comprendre qu'on appartient, ouais, qu'on casser ce truc de case, qu'on n'appartient pas à une case. Parce que, par exemple, la case homme, et bah, c'est pas parce qu'un homme va faire un truc qui rentre pas dans la case que du coup ça va l'enlever de la case. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça reste un homme, vous voyez ce que je veux dire. Donc ouais, j'espère que ce truc de case, tout ça, d'opposition, de petite guéguerre, bah, ça va disparaître tout simplement.
Oui, c'est ça, juste que les personnes osent et que les personnes s'affirment en étant qui ils sont vraiment. Et ne pas juste dire ah bah faut que je sois comme celui-ci ou comme celui-ci pour être quelqu'un de bien. Et oui, juste être soi et de s'accepter comme on est et en effet de ne pas rentrer dans les cases.
Du coup, je crois que de manière générale, il faudrait essayer de dissoudre la notion de genre parce que c'est vraiment ça qui a commencé tout ce débat. C'est que quand on est né, juste parce qu'on a un vagin, on nous met dans la case fille, ou juste parce qu'on a un zizi, on nous met dans la case garçon. Parce que du coup, le genre, en soi, si on y pense vraiment, c'est l'homme qui l'a créé. C'est qu'on a créé cette société où on nous a mis dans des cases dès qu'on est né. Et que même, par exemple, des personnes intersexes, on ne sait pas vraiment où les mettre dans les cases quand ils sont nés. Mais il ne faudrait pas faire ça, parce que juste, on est des êtres humains qui sont là contre notre choix et on essaie juste tous de vivre notre vie en paix.
Une production d'ailleurs et d'ici.news en partenariat avec Friction Média.